Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 14 du Fauteuil saison 3. Ah, on va faire comme ça, on va faire façon série de télé. Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je le disais, dans ce nouveau Fauteuil, c'est la 14e semaine en NFL au niveau de la saison 2019 et je ne compte pas les autres épisodes du Fauteuil. Bien évidemment, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à Sébastien Premier connecté. Je vais partager immédiatement, et évidemment, j'avais pas ouvert le bon truc, je vais partager immédiatement ça sur le site. Je crois que ça avait bien marché la semaine dernière. On met immédiatement l'article, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, hop voilà, et je vais mettre ça sur le site s'il veut bien. Alors, on va faire d'abord les réseaux sociaux et je vous souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que le Fauteuil, et bien décidément, j'ai ouvert tous les mauvais onglets. Je croyais avoir ouvert Facebook, j'ai ouvert Instagram, je ne m'y retrouve plus. Donc, je vous le disais, bienvenue à tous dans le Fauteuil. Nous avons encore un gros programme aujourd'hui. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler quarterback mobile. Nous allons parler des matchs de la semaine 14. Nous allons parler du match qui a eu lieu jeudi entre les Cowboys et les Bears. Ça, c'est pour le gros du programme. Évidemment, tout ça sera agrémenté par vos questions, par du fromage. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Les meilleures cotes, évidemment, de notre partenaire Unibet qui est avec nous encore cette année. N'hésitez pas à aller parier sur Unibet et à vous inscrire. N'hésitez pas à passer par les liens que nous mettons sur les réseaux sociaux et sur le site. Cela permet de savoir pour eux que vous venez de chez nous et du coup, ça marche bien. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire pour regarder les matchs parce que cette année, vous pouvez regarder les matchs en streaming sur Unibet. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant puisque ça vous coûte très, très peu cher. Je publie l'article sur le site avec le lecteur et ça laisse le temps, et bah, plus de 100 personnes d'être arrivées le temps que je fasse ça. C'est parti pour un canne à Fauteuil en effet. Degan, bonjour à David, bonjour à DonSNJ, bonjour à Philippe, bonjour à Simon, bonjour à Tony Barbe. Pareil avec modération, bien évidemment. Gus le dit très bien. Bonjour à lui. Bonjour à Flo07, bonjour à John. Ça a ralenti. Non ? Bon, on a failli avoir un souci, mais ça a l'air d'être reparti. Tout va bien, mes amis. Tout va bien. On ne se porte pas la poisse. C'est la 14e semaine et pour l'instant, on n'a pas encore eu de coupure. Donc, la force est grande avec nous. Hein. On va pas se porter la poisse tout de suite. Voilà, je finis de mettre. Je suis désolé, j'avais mal mis le lien sur Facebook, mais on essaie d'avoir évidemment le plus de gens pour suivre. Donc, hop, je mets bien le lien sur Facebook et on est pas mal. Voilà. Donc, vous m'entendez bien, c'est moi où le son est moins fort que d'habitude. Alors, c'est moi où le son est... Alors, attendez, bougez pas. Est-ce que j'ai touché un réglage sans le faire exprès? Hop, on est à plus 20, on est... Alors, il est peut-être plus éloigné de moi. Hop là, regardez. Hop, je vais plus me rapprocher et je vais parler plus fort. C'est peut-être que je marmonne parce que c'est le début de l'émission. Bah là, vous avez eu un gros plan incroyable. Hein. Moi, j'ai... Alors, le son est le même normalement, donc je sais si je vais parler plus fort ou pas, mais le son est bon. Ah mais non, attendez, je suis bête, regardez, ceci est un jack, si on le met dedans, hop, ça marche
mieux. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ouais, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, voilà, regardez, une fois qu'on a mis le jack, eh ben tout va mieux, je suis sûr. Alors, qui dit le son? Qui dit le son? Voilà, ben voilà. Voilà, voilà. On dit merci à Jack, évidemment. Je suis allé trop vite. J'étais éparpillé dans la précipitation de la. Vous voyez? Parce qu'à chaque fois, il faut que je mette les petits maillots en place, il faut que je mette le kakémono derrière en place, je mets ça, je déplace un peu la lampe et tout ça. De temps en temps, j'oublie un truc. Voilà, là, c'était juste de brancher le Jack. Donc, merci à Jackson, comme le dit Joe. Ça fait déjà. Oui, désolé à ceux à qui j'ai cassé les oreilles. Du coup, oui, et on a eu un gros plan sur mon crâne. C'est aussi pour ça que la vidéo sert à quelque chose. Même si cette émission est réécoutable en podcast, je le rappelle. Alors, Marco Verratti, ton maillot, mais moi, Marco, si tu envoies ton maillot dédicacé et tout, on le met en expo, hein, il n'y a pas de souci. Je précise d'ailleurs que ça marche avec les joueurs de toutes les équipes de foot, on n'a pas de parti pris. Mais voilà, mais oui, Marco Verratti, écoute, même si tu veux venir dans le fauteuil, je ne parle pas italien, mais je pense que depuis le temps que tu es à Paris, tu dois quand même parler un petit peu français, donc on peut essayer. Donc, je le disais, ça fait 6 minutes, j'aime pas les intros trop longues normalement, et là, je dois vous casser les oreilles depuis 6 minutes. Donc, on commence tout de suite avec le joueur mystère. Je vous remets, alors déjà je vais vous remettre tous les liens que je mets normalement d'habitude sur le chat, c'est-à-dire le lien hop pour Unibet, si vous voulez y aller, comme ça vous passez par là. Le lien pour Tipeee, si vous voulez nous soutenir, parce que vous êtes toujours plus nombreux et qu'on vous remercie. Et le lien pour participer au concours. La réponse du joueur mystère de la dernière fois, c'était donc Malcolm Butler. Vous avez été plusieurs à la trouver. Je crois que j'ai reçu trois ou quatre mails de personnes qui avaient trouvé. Le premier, c'était Alexandre. Il a remporté donc 100 € de Freebet. On le félicite. Il a reçu un petit mail que je lui ai envoyé ce matin normalement. Donc, j'ai pas checké les mails depuis. Mais voilà, Alexandre, tu me renvoies toutes les infos demandées et tu as tes 100 € de Freebet. Gratuit donc, puisqu'il y a free dans le nom évidemment. Donc, c'est chez Unibet. Nouveau joueur mystère. Alors, je ne sais pas s'il est aussi dur. En général, j'essaie de vous faire trouver sur 2, 3 émissions, 4 émissions, on va dire. Donc, on va commencer avec un nouvel indice pour un nouveau joueur mystère. Le premier indice, c'est 2 x 3. 2 x 3. Ouais, je fais dans les indices un petit peu. J'essaie de faire un peu plus cérébral. Hein. Donc, 2 x 3, c'est le premier indice pour le nouveau joueur mystère. Alors je vois Kenney, Thomas Kenney, pardon, qui dit j'en ai marre de ma connexion qui traîne et qui met à la ramasse de chaque joueur mystère. En tout cas, c'est vrai que félicitations à Thomas parce qu'il n'est pas toujours le premier, mais en général, je crois qu'il les a tous trouvés. C'est au moins le troisième hein, qui tombe. Donc félicitations à lui, en tout cas. Il avait encore trouvé, mais il y avait Alexandre qui était passé avant. Donc voilà. 2 fois 3 égale 6 pour vous aider, dit Degan. Oui, là je sens qu'il y a des mathématiciens hein, dans la salle. En tout cas, 2 fois 3, c'est le premier indice. On peut commencer avec vos questions. Je les laisse un petit peu. Je les laisse un petit peu venir. N'hésitez pas à commencer à envoyer vos questions. Moi, je vais commencer sur le match du jeudi. Oui, 33. Ah ouais, alors attention, on peut partir dans les calculs à la Vandamme aussi. Hein. Est-ce que 1 plus 1 égale 1? Est-ce que 1 plus 1 égale 2? Non, 1 plus 1 égale 1. Ou ça fait 11? Enfin voilà. Donc, Bears 31, Cowboys 24. On a déjà parlé des deux équipes dimanche dernier parce qu'elles jouaient déjà jeudi dernier. Même issue pour Dallas, la déception. Même issue pour Chicago, la victoire. Alors, bon match de Mitchell Trubisky. Je vais commencer par ça tout de suite. Alors, voilà, il y a de l'énervement, dis donc. Pourquoi comparer Lamar Avic? Explique-moi cela, SVP, du concret. Ça arrive juste après, c'est le thème de la semaine, JF. Attention au holcap, par contre, c'est un peu énergique. Drew Locke a-t-il un avenir en NFL? Bon, alors, je vais faire le débrief du match, je fais vos questions juste après. N'hésitez pas à les mettre, je vais remonter un petit peu après. Donc, on a déjà parlé des deux équipes, je le disais. Bon match de Mitchell Trubisky. Je vais en parler tout de suite parce que Grégory Richard, mon collègue de l'émission, m'a taquiné un petit peu le lendemain en me disant ah, tu vas encore dire que c'est parce qu'il jouait une équipe de mauvaise en face, etc. Alors, attention, je le dis toujours et je crois que je l'ai toujours dit depuis 2011 qu'on fait l'émission. Je souhaite pas de mal aux joueurs quand je les critique ou quand je dis qu'ils jouent pas bien. C'est parce que je pense qu'ils jouent pas bien. Après, je leur souhaite pas personnellement que ça reste comme ça pour l'éternité. Si Mitchell Trubisky change, je ravalerai mon chapeau et félicitations à lui. Donc, en effet, il fait un bon match après la première interception qui est immonde. J'allais dire un gros mot. Mais donc, après sa première interception qui est quand même très vilaine, il fait un bon match. Il a trois touchdowns à la passe, il a un touchdown au sol. Le touchdown au sol en plus tue le match. Donc, il est efficace et il y a du progrès. Il arrive à faire quelques petits trucs sur certains matchs. Donc ça c'est du positif, tant mieux. Et encore une fois, s'il progresse, tant mieux pour lui. Je lui souhaite, je ne souhaite de mal à personne. Donc là, il est à sa deuxième saison complète, même s'il a marqué, il a manqué des matchs hein, cette année. Mais c'est sa deuxième saison complète. Il a eu sa saison rookie où il a commencé en milieu d'année. Il a sa saison de l'an dernier et ça c'est cette saison cette année. Donc tant mieux pour lui s'il progresse. Je reste quand même pondéré par le fait qu'en face. Dallas est à la dérive. Ça plaque mal. Ils font passer à peu près tous les quarterbacks qu'ils trouvent en ce moment pour des stars. Donc, voilà, c'est un peu, c'est un petit peu compliqué de dire oui, Mitchell Trubisky fait des progrès significatifs et est très très fort sur ce match. Encore une fois, il est bon, mais attention, c'est déjà bien qu'il fasse le boulot contre des équipes moins bonnes. Ça, il faut lui reconnaître, et je le reconnais toujours, c'est toujours dur de gagner en NFL. Donc même quand une équipe gagne contre des mauvaises équipes, il faut déjà le faire. On peut être les Jets et perdre contre les Dolphins et les Bengals, par exemple. Donc Trubisky ne s'écroule pas déjà contre les équipes faibles. Maintenant, il va falloir progresser contre de la concurrence un peu plus ardue, notamment dans leur très bonne division, il y a du boulot. Donc ça, ça va être, à mon avis, le bilan de ce match pour l'attaque de Chicago, en tout cas. Dallas. Ah, Dallas. Dallas, field goal raté, plaquage raté. Il commence avec un touchdown et une interception. Super, bon début de match. Alors là, vraiment, vraiment très très bien. Super truc. Derrière, ils prennent 24 points de suite. Statistique incroyable. Dallas n'a pas marqué dans le second ou le troisième quart-temps sur les trois derniers matchs. C'est-à-dire qu'ils marquent dans le premier, ils marquent dans le quatrième. Et sur les deuxième et troisième quart-temps, ça fait trois matchs qu'ils n'ont pas mis un touchdown. Ils ont un trou d'air. Alors, je suppose que c'est bien scripté en début de match et ils arrivent à peu près à s'en sortir. Sur la fin de match, ces derniers temps, c'était quand même des moments où les matchs étaient un peu morts. Là, ils se rapprochent, mais c'est vraiment... on n'y croit plus vraiment. Donc, ils n'arrivent plus à mettre en place leur attaque. Ils n'arrivent plus à être efficaces. Ils n'arrivent plus à plaquer. Et je vais pas mentir. Je vais pas vous dire, j'ai une super analyse, etc. Ils sont perdus. Jerry Jones met lui-même le feu aux poudres. Alors, c'est le pompier pyromane. Il fout le feu dans la franchise, un truc incroyable. Mais John le dit bien, ça pique la stat quand tu vois les squads offensives. Ils ont le matos. Ils l'avaient, ça marchait en début d'année. Ils sont en train de se saborder complètement. Jerry Jones est en train de saborder complètement son équipe. Je veux dire, encore une fois, je ne vais pas vous prétendre avoir une analyse quand Dak Prescott dit « j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas ». Voilà. C'est-à-dire que, alors autant certains coachs vont vous dire c'était l'exécution, on avait un bon plan de jeu ou pas, ou ceci ou cela. Même là, Prescott, il dit je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc je peux pas savoir pour eux, mais surtout, je pense que vraiment, encore une fois, ils sont en train d'imploser. Ils sont vraiment en train d'imploser. Ils sont dans une division d'une faiblesse terrible, donc ils ont encore une chance. Et j'ai la faiblesse de penser encore qu'ils vont gagner cette division. Mais franchement, c'est une galère. Ils sont vraiment en train de se tirer une balle dans le pied tout seul. Donc voilà. Question de Mathéo, est-ce que Prescott deviendra free agent? Ils ne le laisseront pas partir. Il y a trop peu de quarterbacks de qualité, même titulaire décent en NFL pour le laisser partir. Donc au pire, il sera tagué. Il y aura le franchise tag. Il restera un an avec un bon salaire pour le retester. C'est le pire scénario, mais voilà, ça me paraît pas infaisable. Amari Cooper free agent dit Gus. Non mais c'est ça. En fait, ils ont Amari Cooper et Dak Prescott qui sont tous les deux en fin de contrat. Ils ont un seul franchise tag. A priori, ils le poseront sur Prescott et ils espéreront que ça passe au niveau des négociations avec Amari Cooper. Mais voilà, il y a même pas de. Oui, il peut choisir de pas signer le tag dit Jazzlock, mais très bien. Mais ils vont le mettre dessus, donc ça c'est pas... Après en plus, Prescott il s'est construit un peu une image de nice guy et tout, l'équipe, moi j'ai pas peur de négocier machin, ouais, après voilà, si la franchise a envie de jouer là-dessus en mode, on va voir s'il est si gentil que ça, on va voir s'il signe, et puis au pire c'est lui qui aura l'air du méchant qui veut pas signer, mais ça c'est autre chose, mais ils ont aucune raison de pas mettre le tag en se disant, il va peut-être pas le signer, ils vont pas le laisser partir pour rien, hein. Donc voilà, ils peuvent très bien mettre le tag pour l'échanger après s'ils en avaient envie, mais ils le feront pas, ils vont garder Dak Prescott, ça c'est vraiment pas le problème. Donc pas mal de questions sur les Cowboys, est-ce que Prescott donc deviendra free agent, on l'a fait, j'en ai vu une autre, il y a Gus qui disait, je vois bien Mike McCarthy à Dallas. Alors la question du remplacement de Jason Garrett se pose fatalement, elle se pose déjà parce que Jerry Jones arrête pas de dire que ça va pas, donc a priori voilà, il va le foutre dehors, sauf un incroyable retournement de situation, mais il va le mettre dehors. C'est vrai que Mike McCarthy c'est pas une mauvaise idée, c'est un coach offensif, si t'arrives à garder Rod Marinelli pour la défense. C'est un coach offensif avec de l'expérience, qui a déjà gagné un Super Bowl et qui peut en plus autant ça passait plus avec Aaron Rodgers parce que Aaron Rodgers avait quand même pris le pouvoir, on va dire. Autant là, il n'y a pas de joueur qui peut prendre le pouvoir sur lui. Dak Prescott n'a quand même pas l'aura d'un Aaron Rodgers, n'a pas le talent d'un Aaron Rodgers. Donc, Mike McCarthy, ça me semble pas être une solution idiote pour cette équipe de Dallas. Après, il faudra voir s'ils veulent partir sur du jeune. Alors, je vois Matteo qui suggère Urban Meyer, mais c'est toujours un pari d'aller chercher un mec dans les rangs universitaires, aussi Urban Meyer soit-il, parce que c'est pas la même chose quand même d'être coach NFL. Hein. On le voit, Cliff Kingsbury, pour l'instant, il rame, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc tout Urban Meyer, Cliff Kingsbury, ce qu'on veut qu'il soit, la NFL, c'est pas pareil, il y a des égos à gérer, c'est pas toi le grand patron, il y a des choses comme ça. Ça, il faut quand même, parce que voilà, les Urban Meyer, les Nick Saban, etc., ils aiment bien avoir le pouvoir, ils aiment bien être le grand patron, c'est eux la star de l'équipe. Urban Meyer avec Jerry Jones au-dessus, parce que le problème, il est là à Dallas, hein. C'est Jerry Jones. Donc c'est aussi ça le problème. Comme beaucoup de franchises, j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que Jerry Jones est en train de foutre le feu à sa propre équipe. Le problème, c'est que c'est le seul mec dont tu peux pas te débarrasser. Officiellement, Jerry Jones, il est propriétaire et general manager. Donc ça veut dire que le general manager des Cowboys est invirable, de facto. Voilà. Les Cowboys ne peuvent pas changer de manager général. Donc voilà, ils ont. Alors je sais plus s'il a encore le titre, hein, Jerry Jones, mais au pire c'est son fils Stephen Jones, donc il va pas virer le fils non plus. Donc voilà, c'est vraiment un problème qui est insoluble parce que comme toutes les franchises, comme toutes les franchises qui ont un problème de direction, bah, ça peut être le principal problème. Moi, je prenais l'exemple. Hein, on voit comment il s'appelle. Donc encore une fois, Jerry Jones mettre le feu aux poudres, dire ceci, cela en conférence de presse, se faire raccrocher au nez à la radio parce qu'il est énervé, etc., etc. Quand est-ce que vous entendez Robert Kraft après une défaite des Patriots? Quand est-ce que vous entendez les propriétaires des Steelers? Quand est-ce que vous entendez les propriétaires même des Eagles qui sont à la ramasse en ce moment? On les entend jamais. On les entend jamais. Ils laissent les mecs faire leur boulot. Et ça, Jerry Jones, il ne sait pas faire. Donc, n'importe quel coach qui aura un petit peu de poigne, il va venir, il va être là, il va entendre Jones pendant 6 mois, 1 an, à la fin, il n'en peut plus. Bill Parcells a essayé, je ne sais plus combien de temps Bill Parcells était resté aux Cowboys, il avait eu quelques résultats. Au bout d'un moment, les mecs ne peuvent pas travailler avec lui. Ils sont pas. Je suis en train de vérifier combien de temps est resté Bill Parcells aux Cowboys. 2003-2006, il est resté 3 ans. Il est resté 3 ans. Mais encore une fois, James Dolan et Jerry Jones, dit Chris, alors c'est le propriétaire des New York Knicks, hein, pour ceux qui ne suivent pas la NBA. Les Knicks sont quand même vraiment au fond. Et paradoxalement, Dolan ne donne pas beaucoup d'interviews, il n'est pas très présent médiatiquement. Donc c'est un autre problème. Et le truc de Jones, c'est qu'il se repose sur un succès que la franchise a eu dans les années 90. Donc ça lui donne plus ou moins une légitimité. Il y a Simon, et vous êtes beaucoup à faire le lien avec Jean-Michel Aulas. Alors je suis pas beaucoup le foot, mais oui, de ce que j'entends médiatiquement, il y a un peu de ça. Par exemple, Lyon, ils ont eu beaucoup de succès dans les années 2000. Donc il y a un sentiment, je suppose, de légitimité derrière à mettre la main sur le truc, puisqu'à un moment, ça a marché. Donc ça, c'est sûr. John qui dit, quand tu prétends être encore l'America's Team, pour moi, la Team America, c'est les Pats, et ils veulent garder cette image de Jerry Jones. Oui, l'America's Team, maintenant, les Cowboys, ça commence à faire un rond, hein, clairement. Oui, il vit sur les 3 Super Bowls, dit Lolo. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu ça vous donne un petit peu, en tout cas, l'ambiance du côté de Dallas. Un petit mot, alors je vais remonter un petit peu les autres questions avant de passer au thème de la semaine. J'essaie de voir s'il y avait des choses sur d'autres sujets un petit peu alors on parle de la mort cérébrale. Antonio Brand de retour aux Patriots, Simon, alors ça non, enfin à mon avis non, encore une fois, c'est pas en faisant des excuses sur Instagram que Robert Kraft digérera de s'être fait insulter. Je pense qu'il a un petit peu d'ego quand même. On n'arrive pas au niveau de pouvoir où est Robert Kraft sans avoir un petit peu d'ego. Donc je pense pas que des excuses Instagram d'un teuteux qui fait des excuses et des insultes toutes les 4 minutes, je pense pas que Robert Kraft, ça l'est. Je pense que vous êtes bien naïf de dire « Oh ouais, non, mais il s'est excusé, et puis Tom Brady, il a liké la photo, les Patriots, ils vont le re-signer, parce que Robert Kraft, bon, ouais. » Le mec a quand même mis en cause Robert Kraft pour ses histoires de fesses dans des salons de massage, machin. Robert Kraft ne le re-signera pas, enfin, à moins que j'ai raté quelque chose là-dessus, hein. Mais Vous rendez compte de ce qu'est un milliardaire américain? Il va pas dire, oh, c'est pas grave, Antonio, tu t'es excusé sur Instagram, bon, tu t'es foutu de ma gueule, mais c'est pas grave. Donc, non, il ne signera pas aux Patriots. Il est toujours accusé de viol, hein. Donc il est accusé de viol et il a insulté le patron. Donc je ne sais pas comment ça se passe dans votre boîte, mais si vous êtes accusé de viol, si vous êtes accusé de viol et que vous avez insulté votre boss, même avec des excuses sur Instagram, en général, ça revient pas. Hein. Donc voilà. Enfin, je sais que la NFL c'est différent pour Monsieur Tout le Monde, ça voudrait dire qu'on irait bosser au fast-food. Mais voilà. Donc, Drouloc a-t-il un avenir en NFL? Babac, pourquoi pas? Il a joué qu'un match, il a fait un bon début de match, donc il y a des progrès à faire, mais ça peut être pourquoi pas. Les Ravens favoris pour toi, Sixers Forever 3, Allen Iverson. Ravens favoris pour moi, pour l'instant, oui. Oui, pour l'instant, oui. Ouais, ouais. Question, où en est-on avec Jean-Hugues Anglade, dit Tony Barbe. Est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une private joke? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir. On a fait une blague sur Jean-Hugues Anglade, peut-être récemment. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'explication pour le 13 de Malcolm Butler? Question de Guigui Priol. Alors, il y avait un truc très... Je crois que c'est son... Parce que je fais tous les indices d'un coup. Je vais vous dire, je trouve le joueur, je fais tous les indices d'un coup. Et après, des fois, j'ai du mal à... Je crois que c'est son nombre d'interceptions en carrière, si je ne dis pas de bêtises. J'avais pris un truc comme ça. Oui, c'est ça, son nombre d'interceptions en carrière. C'est ça, en saison régulière. Hop là, alors je regarde un petit peu et on va enchaîner, n'hésitez pas à en remettre. Est-ce que les Bears pourraient éventuellement se pencher sur les cas de Nick Foles ou Cam Newton pour remplacer Mitchell Trubisky? Question de Thomas. Bah du coup ça va dépendre de ce qu'ils pensent avoir avec Mitchell Trubisky. Ça va être la question de l'intersaison pour eux. Ça va être la question de l'intersaison pour eux, mais clairement c'est les deux comment dire. Possibilité s'ils veulent changer de quarterback, j'y arrive, pardon. Question de Babac, Joe Burrow est-il le nouveau Tom Brady? Lol, je ne sais pas parce que je n'ai pas encore vu jouer Joe Burrow. Mais les quarterbacks qui doivent être superstars, tout ça, bon, vous savez, j'en m'en méfie toujours avant qu'ils soient là. Les Panthers voudraient échanger Newton à l'intersaison, je le verrai bien. Ou question de Damien. Encore une fois, on l'a dit il y a quelques temps, il n'y a pas tant de destinations que ça pour les quarterbacks en ce moment, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des jeunes quarterbacks ou des vétérans ou des machins. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Il y a peut-être une équipe qui sera audacieuse. On ne sait jamais, tu vois, un Chargers, si Philip Rivers prend sa retraite, ou il y a peut-être des ouvertures retraites qui vont s'ouvrir. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Hop, quelqu'un a des nouvelles de Franck des Toubitri? Question de Nicolas Olivier. Ah ouais, on va se mettre à poser des questions sur des anciens comme ça. Inquiet pour les Pats en cas de défaite ce soir? Question de Jérôme. Alors, ils en ont parlé dans l'émission de jeudi. On a un petit peu teasé, trollé sur le titre. Non, je suis pas inquiet pour les Patriots tant qu'ils perdent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vois Andy Dalton au Bears. Ouais, c'est aussi une possibilité. Flo07, comment un passionné de foot US tel que Alain Madrid peut-il à ce point ignorer la NCAA? Ça fait bizarre de lire une question en lisant mon nom en entier, j'ai l'impression d'être Alain Delon. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'y pensais en plus l'autre jour. C'est hyper simple. Alors, j'ai bossé dessus pendant 3 ans, pour ceux qui n'ont pas suivi, à l'époque j'ai commenté des matchs. Donc c'est passionnant quand tu as le temps de t'y mettre, et c'est vraiment sympa. Sauf que cette année, le samedi, c'est mon jour de repos, et donc c'est mon jour sans foot US. Voilà. C'est aussi simple que ça. Les Steelers ou les Bears pour Newton, pour l'interrogation, les Steelers, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce que Ben Roethlisberger revient de blessure, il a déjà annoncé qu'il reviendrait de blessure. Donc voilà, ça m'étonnerait. Fredo PSG ce soir, c'est Star Wars Brady versus Mahomes. Oui, je prends ce commentaire. Pourquoi? C'est le moment de faire un teasing. Le 19 décembre, émission spéciale Star Wars, évidemment en ligne sur le site. Je glisse ça comme ça. À quand les Texans au Super Bowl? McFausengom. C'est pas évident. Il y a toujours une petite faiblesse, mais ils seront pas bons à prendre en playoff. Je suis pas sûr qu'il a la substance et la consistance pour y aller, mais en tout cas, ça progresse. Ils ont le quarterback déjà. Ils ont le quarterback, donc en théorie, s'ils sont bien coachés, ce qui est parfois une incertitude avec Bill O'Brien, à partir du moment où ils ont un franchise quarterback dans cette AFC, ils sont prétendants au playoff tous les ans, donc ils seront prétendants au Super Bowl tous les ans. Moody Cozy, est-ce que je crois au playoff pour les Colts? Là, non. Ça commence à sentir le roussi avec les Titans et les Jaguars. Les Titans et les Texans, merci, qui sont plus forts dans la division. Donc, a priori, non, ça ne sera pas pour cette année. Les Cardinals sont bien allés, donc pourquoi pas les Texans, dit France Max. Bien sûr, hein, attention, une fois que toutes les équipes sont en playoff, plus rien n'est à exclure. Ça, c'est sûr. Penses-tu qu'à la fin de la saison, Mayfield aura plus de victoires que de partenariats commerciaux? Question d'Alexis, je ne sais pas, parce qu'il a beaucoup de partenariats commerciaux, honnêtement. Les squads défensifs qui ont le plus de chances d'arrêter Lamar Jackson en NFL? C'est dur. Les 49ers l'ont bien ralenti, mais ils étaient aidés par la pluie aussi. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué hein, quand même d'arrêter Lamar Jackson en ce moment. Flo07, on moyennera en privé pour les adresses de cadeaux. on va pas donner ça en live. Est-ce que les Bills vont être respectés enfin? Oui, mais je pense qu'on les respecte là depuis une ou deux semaines quand même. On l'a dit, il y a une très bonne défense et il y a un Josh Allen qui progresse. Donc je pense qu'on les respecte plutôt pas mal. Comment expliquer la baisse de régime d'Odell Beckham? Est-ce dû au brand ou à sa hype qui le rend encore plus marketing que joueur? Pardon, il y a peut-être une coquille, Moody Cozy. Odell Beckham, c'est ça que je voulais vous dire. Je n'ai pas encore eu le temps de le mettre sur le site, mais il souffrira d'une pubalgie. Donc, il pourrait être opéré pendant l'intersaison. Et la pubalgie, c'est vrai que c'est gênant, c'est douloureux. Je peux témoigner. Super blessure, pas cool. Non, mais voilà, donc il a une pubalgie, donc c'est forcément gênant, apparemment. Et après, ça a l'air d'être aussi le chantier offensivement dans le staff des Brands. On l'a mis dans le petit déj ce matin sur le site. Apparemment, c'est un peu la cacophonie, c'est-à-dire que c'est Freddy Kitchens qui appelle le jeu offensif, mais il n'est pas tout à fait d'accord avec le coordinateur offensif, Tom Monken. Apparemment, le coach des quarterbacks, Ryan Lindley, a aussi son mot à dire. Et en fait, ça tourne un peu n'importe quoi. Donc il faudrait mettre un peu. Mais ça, je pense que c'est aussi la jeunesse du coach. Qui fait que, voilà, ça arrivera peut-être pas dans des staffs un peu plus expérimentés. J'ai vu passer la dernière de Manning, tu penses lundi en jeu, question de France Mike, c'est vrai que Eli Manning va jouer lundi, bon, faut pas en attendre grand-chose, mais voilà. Comment expliquer le manque d'homogénéité en AFC par rapport à la NFC, Jazz Luck, ça, honnêtement, il y a des périodes, alors je sais que là, ça fait longtemps que la NFC est assez homogène, mais... on ne peut pas non plus... C'est aussi comme ça, c'est-à-dire il y a des périodes, mais l'AFC sort beaucoup quand même de champions, parce qu'ils ont quand même eu Manning et Brady pendant des années, donc on ne peut pas non plus dire qu'il y ait que ce soit extrêmement faible ou plus faible d'un côté que de l'autre, donc ça ne me choque pas plus que ça. C'est assez cyclique, en effet. Comme le dit Marco Verratti sur le chat, les années 90, c'était la décennie de la NFC, ouais. Oui, voilà, et puis l'AFC, bon là, les Steelers ont des blessures et tout, mais ça a été très très fort ces 10 dernières années, les Ravens, ça a été très très fort depuis 15 piges, il y a quand même enfin voilà, il y a des années où les playoffs AFC, avec Brady, Manning, Steelers, Ravens, ça faisait déjà 4 sur 6, ce qui était quand même plutôt costaud, hein, donc... Voilà, c'est cyclique. Je pense que franchement, est-ce que j'ai des infos sur Chad Kelly qui est complètement disparu après une super pré-saison, dit Moody Cozy. Bah, il est remplaçant, il est sur le banc, il a quelques petits procès, il est poursuivi là, pour ses histoires de castagne de l'an dernier, mais sinon, il est toujours sur le banc. Le thème de la semaine, il est temps d'y passer parce qu'il est déjà 18h30. Ce dimanche, donc, Lamar Jackson pourrait ou va battre le record de Michael Vick pour les yards à la course pour un quarterback sur une saison. Pour l'instant, Michael Vick est à 1039 yards sur une saison, c'est le record absolu pour un quarterback. Lamar Jackson est à 977. Je laisse les fans de maths qui m'ont dit 2 x 3 égale 6 me faire la différence. 1039 moins 977, vous me direz combien ça fait de yards à gagner. Mais en gros, 64 ou 63? 64? Non? Degan dit 63, j'aurais dit 64. Je vous laisse avec les calculettes. Donc, 63 ou 64 yards à gagner pour Lamar Jackson, c'est tout à fait dans ses cordes. C'est l'occasion de se rafraîchir la mémoire sur les quarterbacks mobiles en NFL. Est-ce que c'est une révolution? Non, je ne crois pas. On reste sur le 63e? J'aurais dit 64 quand même, 1039-977. Non? Bon. Donc, 63, 62. Non, ça ne fait pas 62. Ah, je ne peux pas prendre mon téléphone pour faire la calculette parce que c'est le téléphone qui filme. 64. Moi, je crois John parce qu'il donne ma version. C'est donc l'occasion de se rafraîchir un peu la mémoire. Est-ce que Lamar Jackson est une révolution? Non. A priori, c'est pas le premier à le faire. Donc,
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça va être aussi simple que ça. Ce serait une révolution s'il était le premier à le faire. Et la question qui se pose, parce que je crois que l'année dernière, il y a eu un fauteuil exprès qui s'appelait Michael Vick ou Cam Newton. Et bien, on est déjà passé à la suite. Donc, ah oui, 63 pour battre le record. Ça fait 62, mais non, ça fait 64. Ah, vous mettez le doute. Donc, on avait fait Michael Vick ou Cam Newton la saison dernière. On va faire Michael Vick ou Lamar Jackson. Alors, on va faire un top 5. Je vais vous donner un top 5 après des quarterbacks mobiles avant Lamar Jackson. Mais avant, la petite question, Michael Vick ou Lamar Jackson? Parce que comme ça, on fait du tweet clash buzz, ça fait un titre d'enfer sur l'émission et ça rapporte des vues, YouTube money, tout ça. Enfin, vous imaginez. S'il continue à ce rythme, je vais trancher dans le vif et dire Lamar Jackson. Lamar Jackson. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Michael Vick, c'est 56,2% de passes complétées en carrière. En 2006, quand il bat le record de yards au sol sur une saison, il est à 52,6% de passes complétées, 20 touchdowns, 13 interceptions. Et donc, si je juge sur le global, pas seulement sur les courses, sur le côté quarterback qui court, double menace, les deux menaces, Jackson, cette année, c'est 25 touchdowns à la passe, 5 interceptions, 2 matchs parfaits et 109 dévales. C'est pas la même ligue, évidemment, ça lance plus pour Lamar Jackson, il a des coachs qui s'adaptent mieux, tout ça. Ok. Mais il a que 22 ans. Vic, en 2006, quand il complète que 52% de passes et qu'il lance 13 interceptions, c'est sa sixième année dans la ligue. Donc, Lamar Jackson est en avance sur Michael Vick à la passe. On peut pas nier ça. Michael Vick avait un très gros bras, mais c'était pas toujours le plus précis. Et encore une fois, au bout de 6 années dans la ligue, il complétait à peine 52% de ses passes. Donc voilà, les faits penchent pour Lamar Jackson à ce moment-là. Je me suis rencardé aussi sur le vote pour le MVP cette année-là, parce qu'on parle beaucoup de Lamar Jackson dans la course au MVP en ce moment. Sachez qu'en 2006, quand Michael Vick bat le record de yards au sol, il n'est pas dans la course au MVP. Le MVP, c'est LaDainian Tomlinson devant Drew Brees et Peyton Manning. Donc, alors pour moi, du coup, Lamar Jackson est déjà meilleur passeur, ou en tout cas il est pas loin d'être il est peut-être mieux utilisé, il est peut-être mis dans des meilleures conditions, mais pour l'instant il est meilleur passeur et il sera meilleur passeur que Michael Vick s'il continue comme ça. Et au niveau du sol, il va battre son record là de yards sur une saison. Donc a priori, je vois pas Lamar Jackson, il a un coup, on dirait une cuisse, dit Ludovic. Alors j'avoue, j'ai pas fait gaffe. Mais pour l'instant, ils sont inarrêtables. Le résultat collectif est là. Peut-être qu'il est mieux coaché, etc. Mais ils sont. Je pense que c'est dur de dire que Lamar Jackson n'est pas en avance sur Michael Vick. Pour rire, j'ai trouvé un article de Bleacher Report de 2011. Alors, je vous lis ce que disait Bleacher Report en 2011. Si un jour un quarterback bat le record de yards au sol pour un quarterback que va établir Vick, une chose est sûre, aucun quarterback ne sera aussi époustouflant et remarquable que Vick. J'ai envie de dire que les choses vont vite. Parce que époustouflant et remarquable, c'est un peu ce que j'ai envie de dire quand je vois Lamar Jackson. C'est vraiment impressionnant ce que fait Lamar Jackson. Il y a même pas 10 ans, les gens se disaient « Oh, on verra plus de Michael Vick, etc. » Et là, on a peut-être un mec qui est déjà supérieur à Michael Vick. Donc je pense qu'on tient quelque chose quand même de pas banal. Vick était méga surcoté, dit Nicolas. Alors évidemment, tout le monde est plus beau avec le recul et la retraite. Michael Vick, on rappelle qu'il d'ailleurs, il a que 39 ans. Hein. Il est même pas encore quadra. Donc, ça prouve aussi que le jeu au sol, ça ne conserve pas trop. Mais avec le recul, c'est devenu des highlights YouTube, Michael Vick. Donc, c'est vrai qu'on ne se rappelle pas toujours de l'imprécision, notamment. Alors, oui, Lamar Jackson a plus de mérite. Michael Vick a été idolâtré comme quarterback mobile à son arrivée dans la ligue. Jackson a été reçu par des équipes qui l'ont demandé d'être receveur. Rien que pour ça, respect, dit Flo07. C'est vrai, ça c'est vrai, qu'il y a quand même eu des moments... c'est vrai qu'il y a eu des moments où Lamar Jackson, on n'y croyait pas trop avant la draft, ça c'est sûr. Lamar, il est dans les temps. Bon, c'est bien ça, il est dans les temps. Le top 5 des quarterbacks coureurs. Pour en parler un petit peu des... Oui, on l'a Simon, t'inquiète. Lamar, il est dans les temps. Mais il est aussi dans les temps, TEMPS, tu pouvais faire les deux. Donc, en tout cas... quelques receveurs. Alors, Lamar Jackson a un bon tight end et quelques receveurs qui savent attraper une balle, dit Ars Vader. Bien sûr, mais il a eu quelques mecs qui n'étaient pas manchots, hein, quand même, Michael Vick. Hein. Quand même. Lamar au canard, bon, on va toutes les faire. Donc, le top 5 des quarterbacks coureurs, je ne me suis pas embêté parce que je trouvais que le classement était quand même assez, assez significatif. Je trouve, c'est que j'ai pris tout simplement le top 5 des quarterbacks qui ont gagné le plus de yards au sol. C'est vraiment dans l'ordre, les 5 qui ont gagné le plus de yards au sol, mais je le trouve vraiment, vraiment significatif. Oui, alors voilà, il y a encore une... Paperboy le rappelle, et c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Oui, pour Jackson, les coachs construisent autour. Ce n'était pas le cas pour Vic. Mais ça, on ne peut pas le reprocher à Lamar Jackson non plus. Donc, numéro 1, c'est Michael Vick. Aujourd'hui, il a gagné 6109 yards au sol. Un bras énorme, mais pas super précis. On l'a dit, agilité, vitesse, puissance. Par contre, au sol, il était... incroyable. On ne va pas réépiloguer, on en a parlé beaucoup. Donc il est numéro 1 avec 6109 yards, c'est la référence des quarterbacks double menace, par vraiment la mobilité qu'il avait. Alors c'est la référence au sol, je ne vais pas dire c'est la référence des doubles menaces parce que je vais y venir après. Numéro 2, c'est Randall Cunningham, 4928 yards. Il a joué de 85 à 2001, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a joué avec les Eagles, Vikings, Cowboys, Ravens. Premier quarterback coureur vraiment explosif. Est-ce qu'il est révolutionnaire ? C'est peut-être pas tout à fait lui, on va en parler tout à l'heure. Mais, alors, Flo07 dit, moi j'étais fan de Dante Culpepper, qui pas tout à fait contemporain, si un petit peu contemporain quand même de Cunningham. Est-ce qu'il est considéré comme un top mobile ? Oui, il était un peu mobile. Donovan McNabb, Doug Flutie, là vous les citez tous. Ils sont dans les mobiles, mais ce n'est pas des références. Cunningham, il est pour moi une référence parce qu'il est le premier vraiment explosif. Là, tous ces joueurs là, que je vous cite, vous pouvez aller checker des highlights sur YouTube, il y a du matos. Donc Cunningham, premier vraiment explosif, c'est une petite révolution, en tout cas, il confirme, c'est une semi-révolution, mais il confirme en tout cas que c'est possible. Et il lance vraiment, il ouvre la voie pour Michael Vick et pour d'autres joueurs. Numéro 3, c'est Cam Newton, parce que oui, il a déjà 4806 yards. Donc s'il rejoue, a priori, il passera Randall Cunningham. C'est une arme particulière, et j'aimais bien qu'il soit dans le classement, parce qu'il est atypique. Il n'est pas comme Michael Vick, il n'est pas comme Randall Cunningham, parce qu'il est incroyablement costaud. Il est moins sur la rapidité que les autres. Vick, Cunningham, Lamar Jackson, c'est sur la rapidité. Newton, c'est un tank, il fait 1m96 pour 111 kg. Pour vous donner une comparaison, Vic fait 13 cm de moins, 13 kg de moins au poids de forme. Donc, c'est vraiment autre chose. Dans son année MVP, c'est une arme incroyable dans la zone rouge. Et là où il est différent des autres, Cam Newton, c'est que c'est le quarterback qui a marqué le plus de touchdowns au sol. Il a marqué 58 touchdowns au sol, Michael Vick. C'est énorme. Pour vous situer, le numéro 2 dans le domaine, c'est Steve Young, des 49ers, qui en a 43. Donc, encore une fois, 43 pour Steve Young, 58 déjà pour Cam Newton, qui a une carrière NFL de quoi, 8-9 saisons. Hein. Donc, c'est une arme quand même très particulière. Il peut être un passeur décent, il a 59,6% de passes complétées en carrière. Sur sa saison MVP, il a 35 touchdowns, 10 interceptions. Donc, le problème avec Newton, et c'est pour ça que vous posez des questions, Noé par exemple, est-ce que Newton est fini ? C'est le problème, c'est les blessures. A priori, aujourd'hui, c'est surtout les blessures. On parlait d'avoir des receveurs décents. Newton, il n'en a pas eu beaucoup. Hein. C'est un problème récurrent du côté de Carolina. Mais honnêtement, c'est vraiment... C'est vraiment une arme particulière. Moi, je trouve que c'est un. On aime ou on n'aime pas le personnage, moi, ça, je m'en fiche un peu. Mais c'est un régal à voir jouer. Quand il est sur son année MVP, quand il est dedans, c'est un régal à voir jouer, Newton. Donc, je sais qu'il attire. Ouais, Funchess, ça allait, Noé. Si on en est à dire que Funchess, c'était sa meilleure arme, par exemple, c'est qu'il n'avait pas grand-chose, quoi. C'est vraiment. Funchess, c'est un mec lambda, quoi. C'est un numéro 2 ou 3 dans des grandes équipes. Donc franchement non, il lui manque aussi du matos, mais encore une fois, il a fait des bons trucs. Je sais que le bonhomme est polémique. Bon, il a un peu tête à claque, mais il a jamais rien fait de méchant de mémoire. Donc voilà, mais je trouve que c'est une arme formidable quand ça fonctionne. Steve Young est quatrième, 4239 yards. C'est le successeur de Joe Montana aux 49ers. Il venait de Tampa Bay, il venait de l'enfer et il est arrivé aux 49ers. Coureur exceptionnel et passeur exceptionnel. Alors c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas voulu dire Michael Vick est la référence chez Double Menace. Je pense que la référence chez Double Menace c'est Steve Young. Steve Young, coureur exceptionnel et passeur exceptionnel. Avec une évaluation de 96,8 à la passe à une époque où c'est très 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 bien. Et pour moi c'est le plus complet de la liste. Trois victoires au Super Bowl, MVP d'un Super Bowl, un match au Super Bowl où il sort cinq courses pour 49 yards et un 26, 24 pardon, sur 36. Avec 325 yards et 6 touchdowns dans la passe, dont 3 pour Jerry Rice. On parlait d'avoir des bons receveurs, ça aide. C'était contre les Chargers qu'ils avaient massacré. Mais Steve Young, c'était une capacité à courir qui ouvrait des espaces pour ses receveurs parce qu'il fallait le surveiller. Mais comme du coup, c'était un grand passeur, il massacrait la défense. Donc là, pour le coup, c'est vraiment la référence. Pour moi, si on parle de quarterback mobile, parce que mobile, ça ne veut pas dire courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Young, c'était courir à bon escient, aller chercher ce qu'il fallait, voilà, impeccable. Donc, franchement, Steve Young, là, oui, c'est 15 fois le cumul de la paire Brady Manning. Alors, je ne sais plus à combien, je crois qu'il a passé les milliards, Brady, pour l'anecdote, quelque chose comme ça. Mais à coup de quarterback sneak de 2 yards, donc ça fait 20 ans qu'il le fait. Mais franchement, c'était ouais, Sports Illustrated l'avait mis en couve avec le titre des Ultimate Weapon, dit Thomas. Voilà. Je pense que Steve Young, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Il a raffiné ça d'une manière assez incroyable. Donc voilà, c'est vraiment, c'était vraiment encore une fois un joueur hors norme. Trois Super Bowls, enfin, toutes les stats parlent pour lui. Je pense que c'est pas lui qui a le plus grand nombre de yards, mais en termes de double menace, il est la référence. Ce qui m'amène au numéro 5 sur les yards gagnés au sol, et qui est pour moi la référence actuelle chez les doubles menaces, Russell Wilson, 3854 yards. Au sol, il est déjà cinquième dans l'histoire. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est celui qui se rapproche le plus de Steve Young. Il a 101,5 d'évaluation en tant que passeur. Il est dans la course au MVP à l'heure actuelle. Ce n'est pas un mec qui court, qui court, qui court, mais il a une intelligence redoutable pour profiter du moindre espace. Il est redoutable pour prendre ce que la défense lui donne au sol, toujours avec intelligence, toujours en étant décisif. Il va grimper dans ce classement au niveau des yards au sol. Il va passer Steve Young. Hein, il lui manque allez, 500 yards à la louche. Donc, il est. Jazz Luck dit c'est le meilleur quarterback de la ligue. Je pense qu'actuellement, c'est le meilleur quarterback de la ligue. Lamar Jackson est peut-être le MVP pour ce qu'il apporte aux Ravens. Mais si tu me dis quel quarterback tu veux dans ton équipe aujourd'hui. Bah, y en a pas, j'en vois pas d'autres que Russell Wilson pour toute la palette qu'il a, quoi. Il est ultra complet, il est double menace, c'est vraiment la référence. C'est pour ça que je vous disais que j'ai pris le top 5 des yards, voilà, pile poil dans l'ordre, parce que pour moi, il a vraiment tout. Il m'a permis de vous parler de Michael Vick, de Randall Cunningham dans le mode pionnier, de Cam Newton pour une arme plus costaud, de Steve Young et Russell Wilson. Les références passées et actuelles des joueurs double menace. Une petite mention qu'il fallait faire, c'est Frank Tarkenton, il est sixième de ce classement, mais je ne pouvais pas ne pas en parler. Il est sixième de ce classement avec 3674 yards. Donc c'est un poil moins que Wilson. Mais pourquoi il faut absolument en parler? C'est parce que lui, il a fait ça de 1961 à 1978. Il a été aussi le leader à la passe. En carrière des yards NFL, il a fini par être battu évidemment, mais il a beaucoup couru à une époque où le jeu était porté sur la course et où les quarterbacks devaient reculer, passer. Si ça arrivait, il se couchait, il prenait un sac. Frank Tarkenton n'a pas fait ça, il est Hall of Fame depuis 86. Hein. À l'époque, donc encore une fois, il fallait accepter le sac, sauf que lui, il avait une mauvaise ligne offensive avec les Vikings à l'époque, et ben, plutôt que de se coucher, il a couru. Et c'est lui, pour moi, le révolutionnaire. Il s'est mis à courir. Il rendait fou les linemen défensifs adverses. Vous pouvez trouver des témoignages au fil de certains articles. Il y a Deacon Jones qui jouait pour les Rams de Los Angeles à l'époque et qui est Hall of Famer aussi, qui disait quand il faisait chaud à Los Angeles, on n'avait pas envie de lui courir après. Et il y avait d'autres linemen défensifs, en fait, qui disaient qu'est-ce que c'est que ce mec, ce quarterback, qui prend le ballon et qui se barre? Non, il ne doit pas faire ça. Donc, Frank Tarkenton, c'est le vrai pionnier. C'est pour ça que moi, j'aime pas. Les mots ont un sens. Hein, on va un petit peu, je vais un peu faire le vieux, vous pouvez mettre les commentaires, ok boomer, tout ça. Mais les mots ont un sens. Révolution, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Merci Steve Jobs. Mais une révolution, c'est ça. C'est quand le mec fait un truc que personne n'avait fait. Donc Lamar Jackson, ce n'est pas une révolution. Michael Vick, c'était un 2.0 de ce qui s'est fait un peu avant. Et Randall Cunningham, je pense, a fait exploser ce qu'avait montré Frank Tarkenton, mais c'est Frank Tarkenton qui montre le truc. Donc voilà, Frank Tarkenton qu'il fallait nommer parce que l'histoire, c'est important, les enfants. Voilà, encore une fois, vous pouvez y aller. Une révolution, c'est pas un tour sur soi-même, dit Degan. Il a raison, les mots sont importants. Il y a plusieurs sens à celui-là. Vos questions, n'hésitez pas à y aller. On va faire maintenant vos questions, les pronos, les cotes, le fromage, tout ça, l'indice. Il faut juste que je retrouve hop, le feutre. Alors, mettez vos questions, je vais remonter un petit peu. Et Mahomes. Oui, mais bah, Mahomes, c'est encore jeune. C'est un passeur avant d'être un mec mobile, quand même, Mahomes. Hein. J'ai pas les stats en tête, mais j'ai pas ce souvenir. Il est mobile. Il est mobile au sens qu'il est moderne, parce que le quarterback moderne est quand même maintenant capable d'aller chercher des yards un peu avec ses jambes, mais j'ai pas l'impression qu'il court énormément. Combien il a gagné de yards? 272 l'année dernière. Ouais, oui, si, il court 60 fois. Mais bon, il a 448 yards en deux saisons pour l'instant, enfin en une saison et demie. Ouais, ça me choque pas comme étant énormissime pour l'instant, mais c'est un. Mahomes est mobile maintenant, j'ai envie de dire, dans les standards NFL quasiment. Quoi. Il faut que les quarterbacks puissent courir un peu. Donc voilà. Rodgers est aussi mobile, par exemple, voilà, Yannick le dit bien. Voilà, Rodgers, il n'est pas mobile, on ne va pas dessiner des courses pour lui. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est un prérequis. Un quarterback NFL doit pouvoir aller chercher des yards au sol si vraiment il y a la situation l'exige. Quelqu'un mentionne Kaepernick. Évidemment, il était très mobile. Mais voilà, je pense que ça montre bien. Évidemment, il y en a eu plein. Je ne vais pas tous les faire, mais il y en a quelques-uns. Je regarde donc les matchs de la soirée pour vous faire les pronostics. Et je fais une erreur parce que je vais. Hop là, voilà. Donc, les matchs de la soirée, parce qu'il est déjà 18h48, qu'il faut que je me dépêche, je n'ai plus que 12 minutes. Atlanta Falcons, Carolina Panthers, j'ai envie de dire que tout le monde s'en... Non, tout le monde s'en fout pas. Bon, non, je suis désolé, à cette période de l'année, j'ai tendance à dire ça quand les deux équipes sont plus dans la course au playoff. J'ai parié sur Atlanta, je crois, sur le fichier officiel de Téléactu, parce que c'est Atlanta, mais il n'y a plus d'enjeu, alors c'est toujours compliqué ces matchs de division. Buffalo, Baltimore, je fais les pronostics un peu vite comme ça, après je prends vos questions. On se fera un petit code, question, indice. N'oubliez pas de me demander l'indice si je ne l'ai pas donné. Fromage, parce que j'ai du spécial. Là, j'ai réussi à trouver une spécialité. C'est une spécialité d'une ville en particulier. Vous verrez. On a parlé d'ailleurs de quelqu'un qui vient de cette ville-là pendant l'émission. Donc, Atlanta et Carolina. Je vais dire Atlanta. Buffalo, Baltimore. Une des premières belles affiches de la journée, clairement. Parce que grosse défense de Baltimore. Donc là, Lamar Jackson va encore être un peu mis à l'épreuve. On va voir ce qu'il peut faire. Test aussi pour Josh Allen face à une défense de Baltimore qui monte en puissance. Je vais dire Baltimore, évidemment, sur la dynamique. Mais attention, ça peut être un match intéressant. Ça se joue à Buffalo. La Bills Mafia est très, 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 très bruyante. Donc, il peut se passer quelque chose. Cleveland-Cincinnati. On ne sait plus trop quoi attendre des Browns. Mais ils sont favoris de ce match. Donc, j'y vais sur Cleveland. Green Bay-Washington. Bon, alors là, évidemment, Washington a gagné, du coup, la semaine dernière. Mais bon. Green Bay est quand même beaucoup mieux construit, donc on va dire Green Bay. Minnesota-Détroit, c'est pareil, non, il n'y a plus d'enjeu pour Détroit, mais il y a de l'enjeu pour Minnesota, il faut continuer à courir derrière Green Bay, donc on va dire Minnesota. New Orleans-San Francisco, deuxième grosse affiche de la soirée, celle-là elle est magnifique aussi, dans la NFC, Petit goût de playoff. On va voir un petit peu comment cette attaque des Saints, là, qu'on n'a pas beaucoup beaucoup vu ces dernières semaines, ou pas aussi explosif que ces dernières années. Donc, ce qu'il va faire face à cette grosse défense de San Francisco. Et puis, l'attaque des 49ers va devoir s'attaquer à une défense qui est quand même solide du côté de New Orleans. Donc, ça va être un très beau, très très beau match. Le match un peu de la loose en FCS entre les Jets et les Dolphins. Si vous voulez vous faire plaisir, là, ça risque d'être un peu nawak, hein. Donc, je vais dire les. Je crois que j'ai dit les Dolphins. Je ne sais plus si j'ai dit les Dolphins ou les Jets. Je sais que je suis très surveillé par la Jet Nation. Je vous renvoie au site, mais je crois que j'ai dit les Dolphins. Donc ça pourrait vous porter chance. Tampa Bay, Indianapolis. J'ai dû dire les Colts, mais attention, il y a de la puissance offensive du côté de Tampa, donc ça peut passer. Houston, Denver. Houston est favori, évidemment. Il y a toujours les progrès de Drew Lock à surveiller côté Denver, donc ça peut être intéressant. Donc Houston, Jacksonville, Los Angeles, là, il n'y a pas d'enjeu. Les Chargers devraient s'en sortir en théorie. Gardner Minshew est de retour au poste de titulaire pour ceux que ça intéresse. Raiders, Titans, match directement dans la course aux playoffs. Les Titans sont bien ces derniers temps, donc on va miser sur les Titans. Les Patriots contre les Chiefs, c'est à 22h20. Donc c'est une des très très belles affiches aussi. Elle n'est pas trop tard pour une fois. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce match. Grosse défense des Patriots, grosse attaque des Chiefs, attaque des Patriots, pardon, un peu au ralenti contre défense des Chiefs qui laisse toujours du vent. Donc, force contre force, faiblesse contre faiblesse, celui-là il va être intéressant. Il va falloir voir en effet comment va New England, surtout si les Bills gagnent. Oui, mais les Bills jouent Baltimore, c'est compliqué. Mais on sait jamais. Arizona-Pittsburgh, Pittsburgh qui se débat toujours très très bien malgré les blessures, malgré tout ça. Ce sera en Arizona, donc attention. Pittsburgh est bien coaché par Mike Tomlin. Il fait du très très bon boulot là, depuis le début de l'année. Donc, je crois que je suis allé sur Pittsburgh, même s'ils ont moins d'armes. Mais c'est un match difficile à pronostiquer. Seattle, les Rams, pardon, c'est à Los Angeles d'abord. Les Rams contre les Seahawks, c'est le match de la nuit. Attention au réveil éventuel des Rams. Ils ont été mieux la semaine dernière. Ils ont peut-être envie face à un rival de division de montrer qu'il ne faut pas les oublier. Ils sont encore dans la course aux playoffs. J'ai mis Seattle parce que je préfère quand même ce que fait Seattle depuis le début de l'année et c'est plus consistant. Mais attention à ce match, ce sera une très belle affiche dans la nuit. Et le match du lundi, ce sera entre Philadelphie et New York. Ça va être probablement affreux. En tout cas, les deux équipes sont quand même bien à la ramasse cette année. 8 défaites de suite pour les Giants. Les Eagles jouent très très mal depuis quelques semaines. Donc on va voir ce que ça donne. Les Eagles sont quand même bien favoris. Voilà. Donc a priori, ça devrait être pour eux. Mais on ne jure plus de rien avec cette équipe. Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet, je vais vous dire ça tout de suite. N'hésitez pas à y aller. Encore une fois, je vais vous remettre le lien. Moi, je vais me connecter, hop là, pour voir. Alors, est-ce que j'ai collé le lien? Non, je l'ai collé dans mon navigateur. Alors, il y a Noé qui demande si on passera les voir à Londres. Ça dépend quand. Mais quand il y a des matchs, on vient toujours. Donc, alors j'espère, d'un côté j'espère que Baltimore va perdre pour que Alain arrête de miser sur nous, on aura plus de chances de gagner le Super Bowl comme ça, dit Olivier. Mathieu, est-ce que depuis la création du podcast avec la team, on a déjà réussi à passer un YOLO? Alors, il y a un truc où on est très bête, c'est qu'on ne les vérifie pas déjà. On les vérifie pas tout le temps. Ils sont quand même très compliqués, hein, c'est pour ça que ça s'appelle le YOLO. Donc je voudrais pas faire croire que ça passe souvent. Les cotes. Alors, qu'est-ce que je vais nous choisir de bien? Alors, il y a et pour les fadas, on parlait de YOLO, il y a les Redskins à 5-10 contre les Packers, les Broncos à 3-50 contre les Texans. Oh bah celui-là il est pas mal. Bon, match très difficile, mais c'est rare qu'on puisse mettre une pièce sur eux en ce moment. Ils sont outsiders. Les 49ers sont 1,83, 1,88 pardon, contre les Saints, donc ça se tente. Ça se tente, honnêtement. Match serré. Les Niners sont le meilleur bilan. Si, vous pouvez jouer l'un ou l'autre. Les Saints sont 1,70. Donc, selon votre confiance, mais c'est un match incertain, mais avec deux bonnes cotes. Du coup, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre si on veut jouer l'upset? Oh, bah ouais, non, moi je vais parier là-dessus, tiens. Parce que je pense que je les ai joués dans mes pronos. Donc, on va voir si ça passe. Mais les Chiefs sont à 2,20. Contre les Patriots. Alors, je dis pas, je suis pas à 100% sûr qu'ils vont gagner, mais c'est eux qui ont une belle cote. Les Patriots sont à 1,50. Donc, autant jouer les Chiefs à 2,20. Moi, je vais jouer là-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'adoucis avec eux? Ah, bah non, tiens. Attendez, une équipe sur laquelle je parie qui est outsider. Eh ben, moi, ça me va. Attendez, et c'est pas tous les jours qu'on peut parier sur. Qu'est-ce que j'écris mal? Sur des outsiders. qui sont quand même des équipes qui sont largement dans la course au playoff, puisque les Seahawks sont à 1,82 contre les Rams. Alors ils doivent être outsiders parce que ils jouent à l'extérieur, c'est à Los Angeles. Mais comme il n'y a pas vraiment d'avantage du terrain à Los Angeles, moi je vais vous dire que ça se joue plus tôt. Donc il est un peu risqué ce YOLO, non, ce combiné. Il est un peu risqué, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc 5 euros misé égale 37,64 €. C'est chez Unibet, évidemment. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Tenez, je vous remets le lien dans le chat, comme ça. Ah bah, je l'ai déjà mis, je suis bête. Voilà. Non, il n'y a rien ce soir à Wardrock. Par contre, je vois Moody qui met un message. Il n'y a pas de soirée NFL ce soir, je vous préviens. Donc, hors événement spécial, les gars, non, a priori, mais on devrait refaire une soirée après le Super Bowl. Pourquoi le podcast n'est pas dispo sur Apple Podcast ou Spotify? Mais il est dispo sur Apple Podcast et Spotify, hein, Moody Cozy. Donc, il n'y a pas besoin de passer au bureau nous expliquer. Je vous le rappelle, vous pouvez trouver sur Spotify, sur Apple Podcast, et surtout, il suffit de chercher TD Actu ou Touchdown Actu, quelque chose comme ça. Yannick, tu n'es pas contacté par des chaînes pour commenter la NFL ou éventuellement Super Bowl? Non, ils ont des journalistes en place, a priori, ils n'ont pas besoin de moi. Et on les salue, donc il n'y a pas de souci. Et puis j'ai déjà beaucoup de boulot avec le site, hein. il n'y a pas de souci. Alors, 10 heures, non, voilà, Claire, très bonne remarque. Claire Salmon, oui, c'est de la promo. Et 10 heures, non, alors 10 heures, on a encore un peu de galère, mais sinon, tous les autres, on y est. Mais 10 heures, non, on n'y est pas. Désolé. 18h56, alors, qu'est-ce qu'on fait? On a l'indice, on a vos questions et on a le frometon. Moi, je propose indice, frometon, question. On va faire ça. Hein. On va faire indice, frometon, question. Donc, l'indice, le premier, c'était 2 x 3. Vous avez habilement trouvé que ça faisait 6. Après, c'est pas forcément le 6 qui est important. Est-ce que c'est le 2 x 3? Bref. Donc, 2 x 3, et le deuxième indice, il est très poétique, c'est le vent d'automne. Voilà, je ne donne que ça, le vent d'automne. Voilà donc pour les indices, 2 x 3 et le vent d'automne. Alors, le fromage. Alors, je n'y ai pas goûté encore, parce que c'est le plus dur, hein. Quand je vais acheter le fromage, c'est de ne pas y toucher avant le fauteuil, parce que je sais que si je le commence, je vais le finir. Alors, vous vous dites, mais pourquoi il a... Un petit récipient comme ça, en plastique, c'est pas top top. Alors, qu'est-ce que c'est? J'espère qu'on va bien voir. Ça a pas l'air ouf comme ça, parce que ça a pas une apparence de dingue. Alors, je sais pas, je mets en avant, mais j'ai un petit décalage dans mon retour, donc voilà. Alors, on voit à peu près ou pas? Non. Bon, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Ouais, ah voilà. Bah, c'est un fromage blanc, hein. C'est un fromage blanc, c'est crémeux. Donc voilà, c'est de la cervelle de canut. Alors là, normalement, non, c'est pas du gorgonzola au mascarpone. On arrive à le sentir. Ah, ça sent bon, n'empêche. Oh, oh, ça sent bon. Ouais, alors c'est pas du gorgonzola. C'est de la cervelle de canut. Est-ce qu'il y a des Lyonnais dans la salle? Parce que la cervelle de canut, c'est de chez vous. Ça vient de chez Jean-Michel Aulas, hein, là normalement. Donc la cervelle du où est le domaine de Sanguinem? Je l'ai pas sur la table. Je montre pas les. Ah oui, si, j'avais montré la bouteille la dernière fois. Donc la cervelle de canut, c'est une spécialité lyonnaise. C'est un fromage blanc avec de l'ail, de l'échalote et plein de choses. Et mon fromager, il met de l'huile de colza grillée et de l'huile de noix en plus. Donc je vais goûter ça. Et je vous en dirai des nouvelles. Je n'ai jamais goûté la cervelle de canut. Alors c'est vrai qu'étant végétarien, manger un truc où il y a cervelle dans le titre, ça me fait toujours un petit frein, quoi. J'ai toujours du mal à manger un truc quand on me dit que ça s'appelle cervelle. Ah bah voilà, il y a Bertrand qui dit que c'est très bon, de bon ton, c'est la fête des Lumières. Bah voilà, je ne savais pas. Bonne fête des Lumières aux Lyonnais. Lyonnais Coroncopels. Bah voilà. Bon, bah merci à tous. Et puis, alors, hein, achète de la trappe échourgnac. Ah oui, à la liqueur de noix. Donc ça, c'est à boire. Bon, alors je vais noter. Alors, attends, trappe échourgnac. Faut me l'envoyer par mail ou par Twitter, Flo, parce que après, je vois plus le chat. Donc, le fromage, on l'a fait. Les questions. N'hésitez pas. Ah, bon dimanche, sinon. Je vois qu'il y a des gens qui disent bon dimanche. Bon, après, il est bientôt 19h. Vous avez été genre plus de 300, quasiment 400. À un moment, on a quasiment piqué à 400. Dis donc. Merci à tous, en tout cas. Si vous avez une ou deux questions, c'est le moment. Non, il est 19h. Ouais, Reblochon, je crois que j'ai déjà fait l'an dernier. Sébastien, mais je pourrais refaire. Pittsburgh en playoff, Gus, ça va être dur cette année quand même. Ça va être dur, il y a du monde. Bon, et bah écoutez, on va se bonne soirée à tout le monde. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie évidemment d'égayer encore une fois mes dimanches. Je vous remets le lien Tipeee si vous souhaitez soutenir le site. Je vous remercie. Il est 19h. Comme d'habitude, vous avez Derek Carr surcoté. Non, Tim le fou. Tu l'as mis beaucoup, beaucoup de fois. Mais non, il n'est pas surcoté. Il est correct, mais il n'est pas surcoté. Merci beaucoup. En tout cas, bonne dégustation, Alain et le Temple Maudit. Allez, il est 19h. Vous avez bien mieux à faire que me regarder puisqu'il y a des matchs qui commencent. On se retrouve mardi pour le débrief dans le podcast sur toutes les plateformes. Jeudi pour l'émission preview, ce sera encore Greg et Raoul. Et dimanche prochain pour un nouveau fauteuil. L'émission est bien sûr réécoutable en podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Bon match à tous. Ciao, ciao.